entre deux, souvent, trois parfois, quand les langues ne s'ajustent pas, que les mots sont des faux amis ou que les hommes ne se comprennent pas. Démêler la communication, passer d'une langue à l'autre, éloge de la traduction et de la médiation. Et nous sommes quatre aujourd'hui, qui dit mieux, dans cette émission que nous réalisons en direct du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris pour une journée d'études organisée par la DGLFLF autour du thème « Migrer d'une langue à l'autre » et plus précisément le rôle de la médiation linguistique. Paul De Cinetti, bonjour.
Bonjour Pascal Paradou.
Vous êtes délégué général à la langue française et aux langues de France, la fameuse DGLFLF qui dépend du ministère de la Culture. Alors pourquoi cette journée et quel est le lien entre langue française et migration?
Vous avez la DGLFLF, comme vous le dites si bien, cher Pascal, c'est une délégation en charge de la coordination de la politique linguistique du gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de langue française dont il s'agit, c'est de langue française en contact avec toutes les autres. Et c'est naturellement une perspective, une stratégie que nous mettons en œuvre, évidemment inscrite dans le politique. Et donc la question de l'intégration, la question de l'immigration, la question de la migration est d'abord, avant toute chose, une question, vous l'avez très bien dit Pascal, de rencontre. Et qui dit rencontre dit échange, et qui dit échange dit sujet linguistique.
Mais l'avenir de la langue française est-elle dans l'immigration ?
L'avenir de la langue française est faite de sa rencontre avec toutes les autres langues. Et c'est la richesse précisément d'une langue que de progresser, que d'évoluer, que de s'enrichir, parce qu'elle s'enrichit dans les dialogues qu'elle entretient avec toutes les autres langues du monde, et donc nécessairement de ceux qui arrivent sur le territoire de notre pays.
Alors il faut noter, on ne va pas passer dans le détail tous les dispositifs mis en place par le gouvernement pour l'apprentissage du français, mais il faut préciser que la loi de 2018 propose 400 heures de français pour les migrants qui ont obtenu des papiers, c'est-à-dire des migrants statutaires. Il ne se passe rien pour les autres en revanche, et 400 heures, c'est le double par rapport à ce qui se passait il y a quelques années. Alors, pour autant, j'ai le sentiment que la médiation linguistique est, et on l'a entendu ce matin, la grande oubliée de la politique migratoire.
Alors, je crois. Alors, vous avez rappelé ces chiffres qui, d'ailleurs, correspondent à une demande très claire du président de la République, hein, de doubler les heures de formation d'apprentissage de la langue française auprès de ces populations, à condition qu'elles, et c'est là peut-être aussi que ça constitue un irritant, hein, à condition qu'elles aient l'autorisation de demeurer après une étude au cas par cas sur le territoire. Mais si vous voulez, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans cette question faite par l'apprentissage de la langue, il y a aussi la question qui est posée de la médiation, et de la médiation pour permettre à ces populations-là d'accéder à leurs droits, aux droits de la personne, au droit à avoir des soins, au droit à avoir aussi, lorsqu'il y a des problèmes, des avocats, à être entendus et reconnus à travers leur langue. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que cette question qui est posée pour ces populations, c'est la question de leur reconnaissance, qui ne se fait pas uniquement par un moteur de recherche de traduction automatique, mais qui se fait par un passage, une médiation humaine, les interprètes. Et là, ce qu'on découvre durant cette journée, ce qui est le plus passionnant, c'est que interprète, c'est un métier, certes, mais c'est un métier qui nécessite dans une telle diversité de situations par rapport à ces personnes, souvent en grande difficulté, en grande fragilité, qui nécessite une formation humaine considérable.
Alors, la médiation linguistique est en effet le sujet de cette journée de la DGLFLF ici au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et ce matin à la tribune et actuellement à la table de ce studio temporaire, Anne Delizet, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à Mons en Belgique, à l'université, et vous coordonnez le cursus universitaire en interprétation des services publics, voilà. Ce qui n'existe pas du tout en France. Est-ce que ça veut dire que les Belges sont un peu plus en avance que nous sur cette question de la médiation linguistique ?
Je ne sais pas si nous sommes vraiment en avance. Je pense que vous avez certains cursus aussi qui se ressemblent un petit peu, ou bien, mais qui portent des noms différents. Mais en tout cas, c'est sûr que la Belgique a une tradition de multilinguisme avec nos trois communautés. Francophone, flamande, germanophone. C'est une terre d'accueil aussi, comme la France d'ailleurs, mais peut-être que la petitesse de notre espace géographique fait qu'on a peut-être plus facilement pu fédérer et rassembler les énergies.
En tout cas, vous formez avec un diplôme universitaire des médiateurs, interprètes qui viennent en aide à tous les primo-arrivants qui ne parlent pas forcément, alors on dit quoi, le belge ou le français en Belgique?
On va dire le français de Belgique.
Le oui. Français de Belgique.
Oui, c'est ça. Donc nous sommes axés sur l'oralité, c'est de l'interprétation par la traduction, et nous formons des personnes qui sont à l'interface entre le service public et le migrant, et l'allophone.
Alors il y a des politiques publiques, on vient de le voir, autant en France qu'en en Belgique, il y a aussi des initiatives privées ou du moins plus locales. Cécile Levaguerez-Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du théâtre de Choisy-le-Roi, donc on est dans la proche banlieue parisienne, et vous êtes devenue la première scène conventionnée pour la diversité linguistique. Cela se traduit par quoi ?
C'est ça. Eh bien, ça se traduit sur deux champs principaux. Le premier, sur le champ artistique, c'est-à-dire qu'on accompagne les artistes internationaux, à commencer par les Français, à traduire et à mener du surtitrage ou pas, parce que lorsque ce n'est pas nécessaire, autant ne pas le faire, pour éviter de passer son temps à lire, dès le processus de création. Et le second champ, évidemment, c'est en lien avec la population locale qui est multilingue et fortement multilingue, puisque il y a une tradition d'accueil de migrants depuis fort longtemps dans le Val-de-Marne. Et bien sûr, aujourd'hui, on est dans une population qui est au moins bilingue, voire trilingue.
90% de votre public est au moins bilingue, m'avez-vous dit tout à l'heure ?
Oui, c'est vrai, il y a la langue française, bien entendu, mais il y a aussi la langue d'origine, et parfois qui est enfouie de chez certains jeunes. Je citais comme exemple tout à l'heure un spectacle qui a été joué à la fois en portugais et à la fois en français. Et là, on a un public angolais, brésilien et portugais qui ne savent même pas, finalement, qu'ils parlent la même langue, lusophone. Donc.
Alors actuellement, a choisi le roi un spectacle en français, anglais, russe et vietnamien.
Oui, Circulation Capitale
qui est quadrilingue
tout à fait, qui est à la fois en vietnamien, en russe, en français et en anglais, qui parle principalement du capitalisme, du communisme, du christianisme et du colonialisme. Et c'est intéressant parce qu'effectivement les publics se déplacent. Alors c'est un travail à long terme, hein. Ça fait 9 ans qu'on travaille sur ces questions-là. C'est une idée que j'ai eue quand je suis arrivée sur le territoire, de prendre en considération les langues parler sur un territoire.
Alors, il vous arrive bien évidemment de programmer du théâtre, de la danse et de la musique. Oui. Donc, je vous conseille, comme ça, petit conseil d'amis, IAM.
Mom, je trouvais les sœurs de classe gul, colorées d'un nom immortel. Me suis répété tant de fois, respirer, souris, bordel. Avec cette heure de loupé, souvent je dormais 2 heures. Éparpillé au sol, les pièces de ma vie comme un puzzle. Le jour m'appelle au buzzer, je portais mon sac à l'épaule. Je voulais signer, je re-seul. Quand j'ai fondé mon école, j'ai vu ses gars et des potes. J'ai bien dû larguer des sottes, trimé pour monter les côtes, mais passé pour aimer les autres. Malgré ce que disent plein de gens, ouais. J'ai pas le corps d'une légende. Un jour j'ai croisé la chance et je l'ai coincé. Pourtant je suis pas un riche descendant, ni même plus intelligent. J'avais pas d'as dans la manche, j'ai juste bossé.
Grave.
Y'a des sentiers j'ai dû zapper, au bout y'avait la folie. Certains que j'ai pas regretté, au bout y'avait la police. Y'avait qu'une vie, je voulais pas la voir passer en bolide. Solide, mon choix était clair, il l'est encore aujourd'hui. J'écris ce que je ressens, grandis, chaque fois j'en ressors. Quand j'aime à 200%, je frappe avec la même force. Y'a pas de formule gagnante, pas de passage secret. Une vie peut être enivrante, pour peu qu'on veuille y goûter.
Aimer, grandir, pleurer, faillir, chuter, se relever, sourire, changer, s'élever, s'ouvrir, briller, mentir, briller, partir, lire, devoir et découvrir, voir, s'émouvoir et s'étourdir. Aimer, grandir,
grandir, pleurer, faillir, plier, partir.
Cheminer sur ce long pont, pouvoir y graver son nom. Lorsque la montre sera cassée, embrasser les cieux sur un bon son. Rêver de cheminer sur ce long pont, pouvoir y graver son nom. Lorsque la montre sera cassée, embrasser les cieux sur un bon son.
Mosaïque de IAM sur RFI, extrait de leur nouvel album, leur 10e album Yazuke, en référence à cet esclave africain ayant vécu au 16e siècle et qui est devenu samouraï au Japon. Si ce n'est pas de la migration, je ne m'y connais pas. Nous sommes aujourd'hui en direct du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris avec Paul de Cinetti, délégué général de la DGLFLF, Anne Delizet, universitaire belge, et Cécile Levaguerez-Marie, directrice dans la banlieue parisienne du théâtre de Choisy-le-Roi. Est-ce que la banlieue est un bon poste d'observation pour comprendre la situation des migrants et leurs besoins? Alors, leurs besoins sont souvent énormes. On va peut-être se limiter à leurs besoins linguistiques qui conditionnent tout le reste, finalement, souvent.
Oui, je pense que c'est un endroit où effectivement beaucoup de gens sont installés depuis fort longtemps, ou plus récemment, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les enfants d'Erasmus qui sont là, puisque on dit depuis un petit moment déjà qu'il y a 1 million d'enfants qui sont nés des couples qui sont créés grâce à Erasmus, et ces enfants-là arrivent aussi en proche banlieue, et donc il faut les prendre en considération avec leurs particularités. Donc c'est vrai que c'est un endroit, un laboratoire sur lequel, je trouve, on ne valorise pas encore assez tout ce travail-là et qui est, pour moi, une formidable ressource, en tout cas pour nous.
L'accès à la culture fait partie de l'accès au droit, Paul de Cinetti ?
Oui, je crois que c'est même une question fondamentale. Si vous voulez, je pense que le premier accès à la culture, on revient à la question, hein, ne peut passer que par une maîtrise de la langue. Ça devrait conduire tout l'ensemble des politiques publiques que mène le ministère de la Culture. On ne peut accéder à la culture qu'à condition de pouvoir maîtriser la langue. Mais on ne peut aussi s'enrichir de la culture de l'autre qu'à condition de porter sa propre culture. Et concrètement, ça veut dire quoi pour les personnes qui arrivent sur le territoire? C'est qu'on puisse les reconnaître eux-mêmes dans leur propre langue. C'est en les reconnaissant dans leur propre langue que ces personnes-là auront davantage confiance en eux et auront une capacité d'apprendre la langue française, de mieux la maîtriser. Il y a un des intervenants qui disait quelque chose qui me paraissait très juste ce matin. Plus j'ai des racines fortes, plus je peux m'approprier la langue du pays. Et je crois qu'il ne faut pas imaginer que l'interprétariat sont des dépenses, sont des coûts, c'est des budgets beaucoup trop excessifs et que ça empêche ces populations de pouvoir s'intégrer, de pouvoir vivre dans un vivre ensemble avec la société. Bien au contraire, l'interprétariat, c'est la première porte d'entrée pour apprendre la langue du pays qui vous accueille.
Mais quand on s'occupe de migrants, Anne Delizet, il y a deux problèmes. Il y a la question de la maîtrise de la langue, mais d'abord, souvent, pour une partie de la population, c'est le fait d'être analphabète, parce que beaucoup de migrants, beaucoup, j'en sais rien, j'ai pas de pourcentage, mais un certain nombre de migrants ne savent ni lire ni écrire.
C'est justement pour ça que nous avons fait le choix de l'oralité, parce que ça, c'est une véritable compétence chez eux. Effectivement, ils arrivent avec leur bagage linguistique de leur langue, leur bagage culturel, et puis ils apprennent relativement rapidement. Moi, je suis toujours fascinée par la vitesse à laquelle ils apprennent le français oral. Et donc, nous profitons de ces compétences pour en faire des interprètes qui sont effectivement une porte d'entrée, un plan incliné vers la société d'accueil.
Vous formez des interprètes médiateurs ou des interprètes médiatrices pour quel domaine? Tous les domaines?
Donc, en Belgique, on n'utilise pas le terme médiateur, qui est souvent un terme fourre-tout. Donc, nous, on forme des interprètes. On va s'arrêter là au niveau de l'appellation. Pour la santé somatique, la santé mentale, l'insertion socio-professionnelle, l'accueil de la petite enfance, l'accueil et la protection de la jeunesse, et puis le contexte juridique pour pouvoir mettre en œuvre dans la formation la directive européenne sur la traduction et l'interprétation dans les procédures pénales. Et donc là, c'est le milieu policier devant les tribunaux et les demandes d'asile et l'avocat. avocature.
Alors, on l'a dit, il n'y a pas de formation vraiment similaire en France, mais il y a des institutions privées qui passent des accords avec les administrations ou les services publics pour proposer justement ce service d'interprétariat. Alors, c'est le cas notamment de ISM Interprétariat qui propose des médiateurs dans 160 langues, donc c'est absolument énorme. Et j'ai rencontré ce matin Kadi Camara qui travaille avec des jeunes isolés et beaucoup dans le milieu hospitalier.
Un jour, un jeune, par exemple, pour vous dire concrètement, donc en consultation, j'ai dit au jeune une maxime, hein, puisque bon, qui fait référence à mes origines Peul, hein, puisque je suis Peul, les Peuls sont des bergers, et j'ai dit au jeune, tu sais, chez nous on dit le berger, il peut offrir du lait, mais il peut pas offrir un veau. Donc là, le jeune réfléchit avec son matériel donc culturel. Il va comprendre évidemment que je suis d'origine Peul. Il va comprendre que en fait, il y a des choses qui se font institutionnellement. Il y a des choses qu'on peut avoir, mais il y a des choses qu'il faut respecter. On a des droits. Le jeune a des droits. Il a aussi des devoirs. Donc ça, je cite un des exemples, hein, voilà, qui illustre bien ma fonction de médiatrice et interprète. Il ne suffit pas de traduire seulement des mots, on traduit des schèmes. On ne travaille pas aussi sur la régionalisation des langues, mais c'est traduire des filtres, des schèmes. C'est beaucoup plus profond que ça.
Anne Delizet, c'est ça un bon interprète ? Traduire, alors elle parle de schème, ça peut paraître comme ça un peu abstrait, c'est les valeurs en fait, les schèmes, hein, c'est le vocabulaire technique.
Oui, effectivement, être un interprète, c'est pas être bilingue. Être bilingue, si ça se comprend comme connaître des mots dans les deux langues, ça suffit pas pour être interprète. Il faut être capable de percevoir ce qu'il y a au-delà des mots, qui s'exprime par le non-verbal, parfois par le paraverbal, ou qui s'exprime de manière non visible, et puis essayer de les transmettre de la manière la plus juste possible à l'autre.
Vous dites traduire le dire et le vouloir dire.
Et le vouloir dire, voilà. Percevoir ce que l'autre voudrait dire grâce à ce qu'on connaît de la langue, de la culture, de la manière de s'exprimer de l'autre, tout en sachant que c'est toujours subjectif, donc c'est plutôt ouvrir une porte pour pouvoir introduire une médiation, une réflexion entre les deux intervenants primaires sur ce que veut dire la personne qui s'exprime.
Et alors ce matin dans votre intervention, Anne Delizet, vous insistiez beaucoup sur la notion de neutralité. Qu'est-ce que vous entendez par là, la neutralité?
C'est une notion extrêmement polémique parce que justement, elle est très large, c'est une notion tiroir, on met beaucoup de choses dedans. Mais pour l'interprétation, la neutralité ne peut pas, on peut la définir par la négative, elle ne peut pas être de l'indifférence, de la froideur, de la distance. Il faut être capable d'établir un lien pour que la communication passe, tout en gardant la juste distance. Donc c'est peut-être plus juste de nommer ça de la multipartialité, comme nos collègues suisses le nomment.
En tout cas, faire de la... Ouais, participer au processus de communication, c'est-à-dire ne pas être à la fois neutre, mais dans le processus de démêlage. Je ne sais pas si le terme existe, je me tourne vers Paul de Cinetti, je sens que je vais me faire taper sur les doigts. De démêler en tout cas ce qu'il est dit, ce qui pourrait être dit et ce qui est sous-entendu.
Oui, il ne faut pas nier ça. On va droit dans le mur si on dit que l'interprète ne participe pas lui-même, n'est pas sous influence lorsqu'il interprète. La communication, c'est vraiment un jeu d'influence. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir conscientiser ces influences pour les minimaliser chez l'interprète.
Paul de Cinetti, quel rôle joue la DGLFLF et donc le ministère de la Culture dans ce métier, dans cette revendication des interprètes qui, en France, sont plutôt du secteur privé et pas tout à fait du secteur public?
Bon, la question plus généralement de la traduction, des métiers de la traduction, c'est une question qui est posée, qui est traitée par le ministre de la Culture, par la DGLFLF, au plus haut niveau. Notamment dans les négociations à la Commission européenne. Il y a un enjeu très fort de reconnaissance et de promotion du plurilinguisme et d'une meilleure reconnaissance du rôle et des missions des traducteurs, qu'ils soient interprètes, traducteurs littéraires, surtitreurs pour le théâtre. On a vraiment un enjeu européen qui est très important, qui est porté. Et d'ailleurs, dans le prochain programme d'Europe créative, on va faire des propositions pour que ces activités-là soient encore davantage développées. Donc c'est une question vraiment essentielle. Moi, ce qui m'a beaucoup touché ce matin également, ça a été probablement les témoignages des interprètes médiateurs. D'ailleurs, c'est vrai, c'est un concept nouveau hein, qui est arrivé récemment avec... forcément avec les questions des migrations que l'Europe connaît.
En tout cas, ça arrive très, très nettement, parce que dans chacune des tables rondes, il y avait un interprète qui venait témoigner.
Ce qui m'a beaucoup précisément touché, c'est probablement l'incroyable richesse émotionnelle que pouvaient receler ces témoignages. Il y avait... d'abord, un besoin d'être entendu, d'être reconnu, parce que vous le disiez vous-même, hein, il y a quand même au quotidien cette gestion du trauma des personnes qui sont prises en charge par ces médiateurs, interprètes. Et je trouve qu'il y a ces gens-là, chez ces personnes-là, une densité humaine que je trouve assez bouleversante. Une capacité d'empathie, mais jusqu'où va justement cette distance? Quelle est cette juste distance par rapport à... C'est une vraie question.
Alors ce matin, une psychanalyste libanaise disait qu'il ne pouvait pas y avoir de connaissances cognitives sans passer par une relation. Est-ce que vous pensez, Cécile Levaguerez-Marie, que l'artiste peut jouer ce rôle-là, vous qui travaillez avec des artistes et des publics en banlieue?
Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que l'artiste lui-même peut, peut transférer quelque chose qui est de l'ordre du sensible par rapport aux personnes qui sont là face à lui. Je reviens sur la question de la traduction, parce que tout à l'heure vous allez parler de la traduction théâtrale, qui est quand même quelque chose d'extrêmement spécifique. Et ce que vous avez dit, tout à fait juste, c'est-à-dire que on ne traduit pas un roman comme on traduit du théâtre, et il faut avoir aussi un lien affectif avec les auteurs contemporains, parce que principalement nous on défend tout ce qui est contemporain. On a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui ont leur propre traducteur, parce qu'ils ont une sensibilité par rapport à l'écriture qu'ils proposent sur le plateau, et ça pour nous c'est important. Donc à partir de ce moment-là, c'est toute une chaîne de sensibles qui se met en place et qui aboutit vers un public qui lui va recevoir et va l'appréhender.
Oui, on est bien loin des logiciels de traduction automatique. Hein. On est tous d'accord autour de cette table.
Ça existe. Moi, je le pratique.
Ça peut servir.
Voilà, on est associé avec une société qui s'appelle Panthéa, avec qui on travaille sur des expérimentations. Il y en a certaines qui sont plutôt réussies, d'autres qui sont encore en cours. Il y a vraiment une recherche à faire là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on sorte de notre système franco-français sur le théâtre, où on traduit tout. Alors que, par exemple, en Belgique, parce que je vais souvent, je me rends souvent en Belgique, il y a une vraie habitude, puisque vous avez deux langues à traduire. Et systématiquement, quand on fait une mise en scène, on pense tout de suite qu'il va falloir traduire. Et du coup, le texte est, alors, pas aussi fort, mais en tout cas moindre sur le plateau.
La philosophe et traductrice et académicienne, elle aime beaucoup ce suffixe « et », Barbara Cassin va conclure cette journée d'études et elle est très engagée sur ces questions de médiation. Elle était notre invitée il y a quelques semaines.
Apprendre la langue du pays dans lequel on est accueilli, ça n'est pas un mal. Ce qui est un mal, c'est que le pays qui vous accueille ne veuille pas reconnaître votre langue aussi. C'est-à-dire que c'est l'absence de plus d'une langue qui est très grave. Si on dit aux enfants qui arrivent dans les classes d'accueil, si on leur dit « asseyez-vous, taisez-vous, si jamais vous parlez, parlez français », là c'est très grave. Si on regarde comment ils parlent, si on comprend à quel point c'est important qu'ils aient une langue et qu'ils la gardent, et qu'ils la parlent aussi chez eux, et qu'ils l'enseignent, et qu'avec leurs copains, ils puissent réfléchir à la pluralité des langues, là ça va. Et c'est bien qu'ils apprennent aussi la langue du pays dans lequel ils se trouvent maintenant.
Ça suppose de la médiation culturelle et linguistique. Ce que vous faites d'ailleurs, Barbara Cassin, avec ce que vous avez appelé les maisons de la sagesse, qui sont des structures où, avec d'autres intellectuels, vous essayez justement de traduire le vocabulaire de l'administration française.
Oui, on a appelé ça maison de la sagesse traduire. Ce ne sont pas des maisons, c'est des dispositifs, si vous voulez. Un peu comme la Commission Vérité et Réconciliation était un dispositif. Donc là, on essaye en effet de fabriquer des glossaires de la bureaucratie française qui serviront autant aux gens qui accueillent, aux bureaucrates, qu'à ceux qui arrivent. Parce que quand on dit, quand on demande nom, prénom, ben ça ne va pas de soi. Dans toutes les langues, ça ne va pas de soi. Et quand on demande si vous êtes marié, divorcé ou paxé, y en a qui tombent des nues et ils ont bien raison.
Paul de Sinetti, est-ce que vous soutenez ces initiatives comme le glossaire de l'administration française dont parlait Barbara Cassin? Ce qui semble quand même dingue de penser que l'administration parlerait une autre langue d'ailleurs.
Il n'y a malheureusement pas que l'administration qui se contente d'un monolinguisme ou de l'entre-soi. Hélas, il y a aussi certaines élites qui créent de cette façon, à travers des fractures sociales réelles de notre pays, des véritables fractures linguistiques. Bien entendu, je ne peux que soutenir toutes les initiatives qui vont vers la promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique. Plus il y a diversité, plus il y a d'enrichissement. Et c'est, je crois, ce qu'il y a de plus fondamental pour nos sociétés et pour nos démocraties.
Donc l'interprète n'est pas celui qui empêche l'apprentissage de la langue après. On en est bien loin.
Ah oui, je pense qu'on en est bien loin, en aucun cas. Et je trouve que l'ajout de ce terme médiateur au terme interprète, je trouve que dit bien toute la signification de ce métier à travers toutes ces dimensions humaines de médiation.
Anne de Lisée, un glossaire de l'administration belge serait utile?
Certainement. Pour les Belges aussi.
Parce que l'administration française et belge parlent la même langue, c'est ça?
Oui, certainement. Mais c'est vrai qu'au niveau technique, il y a moyen d'avoir des traductions artificielles ou bien automatiques ou bien des petits dictionnaires, etc. Mais pas une fois qu'on entre dans des discussions qui sont autres que factuelles. Là, on a vraiment besoin d'un interprète en chair et en os.
Alors, j'ai envie de finir sur une note à la fois personnelle et non linguistique. Combien de fois, allant faire des papiers, une carte d'identité ou un permis de conduire, je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être français, de parler la langue, et quelle malchance et quelle douleur pour celui qui est avant moi, qui ne maîtrise pas cette langue, que de faire ces démarches-là. Parce qu'on ressent un mépris, on ressent une ignorance, on ressent quand même un rejet. Est-ce que ça, c'est pas forcément ce qui doit changer le plus et peut-être le plus vite, Paul de Sinetti?
Moi, je pense qu'on a tout intérêt à démultiplier les initiatives de médiation dans les administrations. C'est fondamental, mais vous savez, c'est pas seulement une question qui se pose pour l'accueil de l'autre venu d'ailleurs. Sur nos propres territoires, on a ces problèmes. Concernant notamment les sujets liés à une mauvaise maîtrise de la langue, à l'illettrisme, ou encore vous allez dans les territoires ultramarins, vous allez en Guyane, vous allez à l'île de la Réunion, vous allez en Nouvelle-Calédonie. Les gens n'ont pas le français, des concitoyens, comme langue maternelle. Donc il y a cette nécessité, je crois, aujourd'hui enfin, de dépasser cette vision, je trouve, rétrograde, très 19e siècle d'une langue française hégémonique, et d'accueillir toutes les entrelangues. Rien n'empêche effectivement à ce qu'on puisse faire en sorte que la langue française soit la langue de notre République, mais qu'elle puisse avoir aussi la capacité d'accueillir d'autres langues pour les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment notre langue.
Cécile Levagueres-Marie, vous sembliez acquiescer à cette question du mépris, du rapport à l'autre, du rapport humain même, indépendamment de la langue.
C'est-à-dire qu'il y a une vraie fracture qui est historique, hein, entre le français dans l'éducation nationale. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a subi pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je crois que les choses ont changé et ça, c'est plutôt bien. Nous, on travaille beaucoup avec les écoles, hein, alentour, les lycées, les collèges, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. La valorisation de ce patrimoine linguistique dans les banlieues, qui sont souvent mises à mal dans les médias, je trouve que c'est, à mon avis, c'est une puissance qu'il faut absolument que les pouvoirs publics s'emparent.
Merci beaucoup Cécile Levagueres-Marie, Anne Delizet, Paul Decinetti. Merci aussi au Musée de l'Immigration qui nous a reçus pour réaliser cette émission que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur le site RFI.fr. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Louise Calédec, Guillaume Ploquin à la réalisation, Marc Fichet et Bertrand Éclair, le duo de choc pour la technique. À demain dans les studios de RFI.
Priorité santé.